à tort. Il faut une chasuble d'or. Nous en tissons pour vous, gens de l'église, et nous pauvres canuts n'avons pas de chemise.
Voilà, on avance petit à petit dans quelques dates et puis on n'est plus en Angleterre, du coup on est à Lyon où depuis très longtemps travaillent ce qu'on appelle des canuts. Du coup les personnes qui sont ouvriers et artisans, notamment de la soie, à Lyon, dans la ville de Lyon et alentour. Et alors ces canuts, bon, bientôt on arrivera au hip-hop et tout, là on est en 1830, donc c'est pas encore tout de suite les chansons contestataires plus électro, là c'est des vieilles chansons, et c'est moi qui fais la partie ringard, bien sûr. Du coup, ouais, alors pourquoi on parlait des canuts, parce que du coup Lyon a été quand même un lieu où il y a eu pas mal de révoltes, notamment ouvrières. On peut citer des révoltes de 1831, d'avril 34, de 1848 jusqu'en 1849, et puis aussi la Commune de Lyon, en 1870 et 71. Alors eux, les Canuts, ils ne s'en prenaient pas spécifiquement aux machines, parce que du coup, on pourrait imaginer qu'il y a des machines qui vont s'introduire aussi dans l'industrie de la soie. Donc pour les luddites, c'était surtout des tondeurs de draps, des tisserands qui se révoltaient contre l'apparition des machines et du coup qui les cassaient et qui étaient soumis à la peine de mort pour ça. Les Canuts, contrairement aux luddites, en fait, surtout leur plus grande revendication, c'était d'avoir un tarif juste et du coup d'exiger un salaire. Donc c'est pas tout à fait la même chose que les luddites. Et par exemple, en 1831, c'est justement ces questions autour du tarif qu'ils voulaient fixer pour leur travail qui ont mené à une grosse insurrection en novembre 1831. Et du coup, ils ont pris la ville au terme de combat, quoi, de combat de rue. Ils ont pris la ville et puis très rapidement, en 2 jours, ils pensaient avoir acquis le tarif qu'ils voulaient et donc ils ont rendu la ville. Ils ont repris le travail, ils ont rendu la ville. Et ça a fait que du coup l'armée est revenue occuper la ville et bien sûr, ça n'était pas beaucoup mieux dans leurs conditions de travail. Et donc ça reprend en 1834, où pareil, les Canuts, les insurgés de la ville de Lyon, enfin les Canuts, les ouvriers, mais du coup une grande partie d'entre eux étaient insurgés de la ville de Lyon, qui en quelques jours aussi vont reprendre la ville de Lyon en avril 1834. Et ça, c'est Adolphe Thiers qui va réprimer cette insurrection. Adolphe Thiers qui s'est rendu célèbre aussi pour la répression de la Commune de Paris. Du coup, qui va se retirer de la ville, encercler la ville et la reprendre. C'est-à-dire que du coup, il va faire un état de siège autour de la ville pour la reprendre et massacrer énormément de monde et emprisonner au moins 10 000 personnes, je crois. Ouais, 10 000 personnes le 15 avril. Voilà, il y a eu d'autres insurrections dans la ville de Lyon par des Canuts qui s'appelaient eux-mêmes les Voraces en 1848. Puis en 1870, et bah voilà, je crois que je vais. Ah non, je voulais lire un truc. Là, si on veut avoir plus d'infos sur les Canuts, on peut lire aux éditions Spartacus La révolte des Canuts de Jacques Perdu, ou alors un autre bouquin qui s'appelle La révolte des Canuts qui parle de celle de 1831 à 1834 aux éditions La Découverte par Fernand Rude. Voilà. On continue.
Ouais, allez. Du coup, bah là, on va un peu changer de pays. On va aller en Belgique. Et on va parler d'un opéra qui a. Bon, c'est un peu une légende, mais qui était à la base de la Révolution belge et de l'indépendance de la Belgique en 1830. On va parler, passer une petite partie parce que bon, c'est un opéra en 5 actes. Donc, Allez, c'est parti, c'est la muette de Porticini.
Câble et son coupé.
On est en 1830 sur le plat pays, règne une ambiance de révolte. Les territoires de l'actuelle Belgique appartiennent à Guillaume Ier, le roi de Hollande. C'est la crise. Le prolétariat ne sait plus s'acheter de pain. C'est la misère totale. Et l'élite francophone en a marre d'être dirigée par les Hollandais. Et puis on est en 1830 et les exilés français arrivent en Belgique et font monter l'idée d'une révolte populaire. Pendant ce temps-là, en même temps, il y a un opéra qui fait fureur en France, c'est La Muette de Porticini qu'on vient d'écouter, on écoute toujours en fond. C'est un opéra écrit par Daniel François Esprit Aubert en 1828. Qui donne une fresque du peuple napolitain qui s'était révolté contre le joug espagnol au XVIIe siècle. L'opéra, il a été pas mal de fois programmé et puis arrêté parce que il créait trop d'envie révolutionnaire dans le peuple, mais il est quand même programmé à l'Opéra de la Monnaie de Bruxelles le 25 août 1830 pour l'anniversaire du roi. Du roi Guillaume Ier, du coup. Malgré les tensions croissantes des semaines précédentes, donc, les autorités hollandaises ont décidé de maintenir l'opéra. Et elles craignaient quelques explosions enthousiastes et quelques exubérances pendant la représentation, mais ils n'avaient pas pris en compte déjà quelques affichettes qui étaient collées un peu partout dans la ville de Bruxelles. Qui disait lundi feu d'artifice, mardi éclairage de fête, mercredi révolution. Du coup, le mercredi, c'était jour d'opéra. Pendant la représentation du coup de l'opéra, à un moment donné, un acte de l'opéra qui parle de la révolution napolitaine et qui c'est un appel à la révolte, vive la liberté. Et à ce moment-là, il y a toute une partie du public qui se lève, qui crie vive la liberté et qui sort de l'opéra et qui met à feu la ville de Bruxelles. Enfin, ils vont au siège, par exemple, du journal national, Et ils crament tout. Et puis ils occupent pas mal de bâtiments officiels. Et après, s'ensuit 2 mois de révolte populaire qui ont fait beaucoup de morts. Et ça a mené à la déclaration de l'indépendance de la Belgique le 4 octobre. Bon, après, un roi était. Et la suite, c'est un roi qui a été mis à la tête du pays. Et les paroles de cet opéra ont été reprises dans l'hymne national. Et en fait, c'est des paroles hyper patriotiques et hyper nationalistes. Du coup, on voit un peu comment ça peut être récupéré. Enfin, du coup, c'est une révolte hyper populaire qui était vraiment juste pour l'indépendance et pour l'indépendance du peuple et pour la reprise du pouvoir du peuple, qui finalement s'est soldée par un mouvement hyper nationaliste et patriotique. Parce que, par exemple, en fait, après, l'opéra parle d'amour de la patrie aussi.
Ah, oui.
Donc, il y a ce sentiment-là dans l'opéra qui a été repris après dans l'hymne national. Belge, enfin voilà, après c'est ça, c'est comment, la force aussi d'une musique, d'une chanson qui rassemble, qui finalement en fait finit par, rater le coup quoi.
Oui, c'est vrai qu'on n'a pas pensé à mettre des chansons de hooligan aussi, des chansons collectives.
Par exemple, oui. Aussi. Bon, voilà, c'était une petite histoire.
Yes.
Une petite histoire de chansons, de chants voilà, qui rassemblent, mais qui tournent mal.
Non, mais du coup, c'est vraiment devenu. Il y a une partie de cet opéra qui est devenue l'hymne de la Belgique, quoi.
Ouais.
Ok.
Amour sacré de la patrie, notamment. Ils ont surtout
c'est le titre. Ah non, ça c'est les paroles.
Ouais, c'est les paroles.
Ouais,
mais okay. dans l'hymne national belge, il y a ces paroles-là qui reviennent.
Mm-hmm.
Mais ouais, après, il y a plein d'autres. Enfin, ça parle. Je peux lire d'ailleurs. Il y a une partie. J'ai noté une partie de l'opéra. Mieux vaut mourir que rester misérable. Pour un esclave, est-il quelque danger? Tombe le joug qui nous accable, et si nos coups périssent. Et si sous nos coups périsse l'étranger, l'envahisseur, amour sacré de la patrie, rends-nous l'audace et la fierté. À mon pays, je dois la vie, il me devra la liberté. N'insulte plus, toi qui nous braves, à des mots trop longtemps souffert. Tu dois parler à des esclaves et nous avons brisé nos fers. Non plus d'oppresseurs, plus d'esclaves, combattons pour briser nos fers, courons à la vengeance, des armes, des flambeaux, et que notre vaillance mette un terme à nos maux.
Et du coup, ça a permis de faire lever l'opéra
Ça a fait lever l'opéra, ouais. Okay. Après, c'était prévu.
Ah oui.
C'était un truc organisé. Uh-huh. Ça a été organisé par des meneurs qui ont dit, voilà, cet opéra, il y a ça, et à ce moment-là, on se soulève. Alors, ce que je ne sais pas et que je n'ai pas trop trouvé, c'est comment ils ont réussi à rentrer dans l'opéra.
Parce
que les places d'opéra, c'est quand même vachement cher.
Ouais.
Du coup, ça, je ne sais pas trop.
C'était la question que je voulais te poser, mais j'avais peur que ce soit une question piège.
Ouais, c'était un peu une question piège. J'ai cherché, je n'ai pas trop trouvé.
Voilà. Ok. D'accord. Et ben pour la suite, on peut retourner en France. Ah non ? Ouais.
Les lâches, quel est-il ? Ah, quel que soit son rang, qu'elle s'est dispensée de tenir son serment. Fenella, je veux le connaître. Et bien donc, malgré toi, je punirai les traîtres. Oui, que ce jour, mais soit ou non fatal, il faut armer le peuple et donner les signals. Avec tu veux calmer le courroux qui m'équine, je saurai malgré toi de courir le parti.
Et merci pour Big Up à la technique pour cette magnifique transition avec un petit fond sonore qui reprend de l'allure par la suite. Et je crois qu'on va retourner en France, enfin pas loin de la Belgique, sur les fronts de la guerre de 14-18. Et on va écouter la chanson de Craon. Et peut-être que je vais l'introduire avant, tiens. La chanson de Craon, elle est connue pour avoir été entonnée par des soldats qui se sont mutinés après l'offensive meurtrière et militairement désastreuse du général Nivelle au Chemin des Dames en printemps 17. Donc il y a pas mal de soldats qui en fait voulaient plus attaquer après le Chemin des Dames, quoi, qui se sont fait massacrer la gueule. Et ils lancent une grève des attaques le 2 mai. Et 30 000 mutins ou manifestants feront ça, et il y aura 3000 condamnations, 554 condamnations à mort et 57 exécutions, donc fusillés pour mutinerie. Et en fait, ces soldats en 17, ils avaient déjà 3 ans de guerre dans les pattes, ils n'en pouvaient plus de la guerre de position dans les tranchées, dans la boue, à monter au front, mais pour qui en fait? Pour qui on risque notre peau? Pour qui on va faire cette guerre? Alors que quand on abandonne le civelot, quand on dit adieu au civelot, on s'en va sur les tranchées en baissant la tête. Et alors que sur les grands boulevards, tous ces gros qui font la foire, si pour eux la vie est rose, pour nous, c'est pas la même chose. Donc ces soldats qui voient qu'en fait, à Paris... eux qui font la guerre sur les tranchées, dans la boue, etc. Dans des conditions horribles, ben déjà ils font la guerre, quoi. Et en plus, à l'arrière, en fait, c'est beaucoup plus tranquille. Ils se demandent pourquoi ils font cette guerre, quoi. Et si Monsieur Legros, ils ont envie de monter sur le plateau, s'ils veulent faire la guerre, et qu'ils la payent de leur peau. C'est un peu les paroles de la chanson de Craon. Alors juste avant qu'on l'écoute, donc elle est célèbre pour ça, quoi. Elle a été d'ailleurs censurée très longtemps parce qu'elle est anti-militariste, contre la guerre, et aussi on pourrait dire anti-capitaliste, dans le sens où ça fustige les gros qui restent à l'arrière, qui se gavent sur le dos des soldats. Ce qu'on peut dire en fait, c'est que cette chanson aussi, elle a été écrite avant 1917. On en retrouve des traces dès 1914, en 1915, en 1916, où par exemple, avant que ce soit sur Craon, donc le village qui apparemment s'appelle plutôt Kron, mais pour gagner une syllabe, on l'a appelé Craon. En 1916, il y avait ce même air et quasiment les mêmes paroles, mais qui parlait de Verdun, par exemple. Voilà. Et j'avais envie de passer cette chanson pour parler des... éternué dans le coude. Pour parler des mutineries des soldats. Il y en a eu pas mal, mutineries des soldats français, mais aussi des soldats anglais qui voulaient pas faire la guerre non plus. Pour des tas de raisons différentes. Ah oui, une petite anecdote. Du coup, après cette offensive du général Nivelle là, au Chemin des Dames, eh ben, y a quelqu'un qui est venu rétablir l'ordre, et il s'appelait rien d'autre que le général Pétain, qui a succédé au général Nivelle pour mettre fin aux mutineries qui ont vraiment pas pris fin tout de suite. Je crois qu'il a été nommé le 2 mai 1917, ou le 5, mais en fait il y a eu des mutineries jusqu'en juin 17. Et alors apparemment, du coup, sa gestion des mutineries est un peu controversée. Certains pensent qu'il a été très dur pour condamner les gens, mais qu'il a aussi assoupli les conditions de mise en permission des soldats. Du coup, il a joué un peu sur les deux tableaux, quoi. Une répression forte, mais assouplir un peu les conditions de vie des soldats. Voilà. Et ben, on peut se l'écouter.
Quand au bout du jour, le repos terminé, on va reprendre les tranchées. Notre place est si utile que sans nous, on prend la pile. Mais c'est bien fini, on en a assez, personne ne veut plus marcher. Bien gros, comme dans un sanglot, on dit adieu au sifflot. Mais me sans tambour, même sans trompette, on s'en va là-haut en baissant la tête. Adieu la vie, adieu l'amour, adieu toutes les femmes. C'est bien fini et pour toujours de cette guerre infâme. C'est à Crâne sur le plateau qu'on doit laisser sa peau, car nous sommes tous condamnés, nous sommes les sars. Huit jours de souffrance, pourtant on a l'espérance que ce soir viendra la relève que nous attendons sans trêve. Soudain dans la nuit et dans le silence, on voit quelqu'un qui s'avance. C'est un officier de chasseurs à pied, venus pour nous remplacer. Doucement dans l'ombre, sous la pluie qui tombe, les petits soldats vont chercher leur tombe. Adieu la vie, adieu l'amour, adieu toutes les femmes. C'est bien fini et pour toujours de cette guerre infâme. C'est à Crâne sur le plateau qu'on doit laisser sa peau, car nous sommes tous condamnés, nous sommes les sacrifiés. C'est malheureux de voir sur les grands boulevards tous ces gros qui font la foire. Si pour eux la vie est rose, pour nous c'est pas la même chose. Au lieu de se cacher, tous ces embusqués, ferait mieux de monter aux tranchées pour défendre leurs biens, car nous n'avons rien, nous autres pauvres puritains. Tous les camarades sont enterrés là pour remplir les poches de ces messieurs-là. Secouons le pognon, ceux-là viendront, car c'est pour eux qu'on rêve. Mais c'est fini, car les troufions vont tous se mettre en grève. Ce sera votre tour, messieurs les gros, montez sur le plateau, car si vous voulez la guerre,
Hey, du coup, c'était... Ah non? Oui, c'est fini, je crois. C'était la chanson de Craon par Les Amis de ta femme. Et une petite référence, on peut, je crois qu'on peut lire le bouquin d'André Loez qui s'appelle Les refus de la guerre, une histoire des mutins, pour parler de ça. Pour...